Le regard de l'homme d'État doit dominer le point de vue où il est placé. Là où, pour produire beaucoup de biens dans un département, dans un arrondissement, dans un canton ou dans une commune, il n'était besoin que de prévoir un résultat à 10 ans d'échéance, il faut, dès qu'il s'agit d'une nation, en pressentir les destinées, les mesurer au cours d'un siècle. Le génie des Colbert, des Sully, n'est rien s'il ne s'appuie sur la volonté qui fait les Napoléons et les Cromwell. Un grand ministre, messieurs, est une grande pensée écrite sur toutes les années du siècle, dont la splendeur et les prospérités ont été préparées par lui. La constance est la vertu qui lui est le plus nécessaire. Mais aussi, en toute chose humaine, la constance n'est-elle pas la plus haute expression de la force? Nous voyons depuis quelque temps trop d'hommes n'avoir que des idées ministérielles, au lieu d'avoir des idées nationales, pour ne pas admirer le véritable homme d'État comme celui qui nous offre la plus immense poésie humaine. Toujours voir au-delà du moment et devancer la destinée, être au-dessus du pouvoir et n'y rester que par le sentiment de l'utilité dont on est, sans s'abuser sur ses forces. Dépouiller ses passions et même toute ambition vulgaire pour demeurer maître de ses facultés, pour prévoir, vouloir et agir sans cesse, se faire juste et absolu, maintenir l'ordre en grand, imposer silence à son cœur et n'écouter que son intelligence. N'être ni défiant, ni confiant, ni douteur, ni crédule, ni reconnaissant, ni ingrat, ni en arrière avec un événement, ni surpris par une pensée. Vivre enfin par le sentiment des masses, et toujours les dominer en étendant les ailes de son esprit, le volume de sa voix et la pénétration de son regard, en voyant non pas les détails, mais les conséquences de toutes choses. N'est-ce pas être un peu plus qu'un homme? Aussi les noms de ces grands et nobles pères des nations devraient-ils être à jamais populaires. Il y eut un moment de silence, pendant lequel les convives s'entre-regardèrent. Messieurs, vous n'avez rien dit de l'armée, s'écria Genesta. L'organisation militaire me paraît le vrai type de toute bonne société civile. L'épée est la tutrice d'un peuple. Capitaine, répondit en riant le juge de paix. Un vieil avocat a dit que les empires commençaient par l'épée et finissaient par l'écritoire. Nous en sommes à l'écritoire. Maintenant, messieurs, que nous avons réglé le sort du monde, parlons d'autre chose. Allons, capitaine, un verre de vin de l'ermitage, s'écria le médecin en riant. Deux plutôt qu'un, dit Genesta en tendant son verre. Et je veux les boire à votre santé comme à celle d'un homme qui fait honneur à l'espèce. Et que nous chérissons tous, dit le curé d'une voix pleine de douceur. Monsieur Janvier, voulez-vous donc me faire commettre quelque péché d'orgueil? Monsieur le curé a dit bien bas ce que le canton dit tout haut, répliqua Cambon. Messieurs, je vous propose de reconduire monsieur Janvier vers le presbytère en nous promenant au clair de lune. Marchons, dirent les convives, qui se mirent en devoir d'accompagner le curé. Allons à ma grange, dit le médecin en prenant Genesta par le bras, après avoir dit adieu au curé et à ses hôtes. Là, capitaine Bluteau, vous entendrez parler de Napoléon. J'ai quelques compères qui doivent faire jaser Gogla, notre piéton, sur ce dieu du peuple. Nicole, mon valet d'écurie, nous a dressé une échelle pour monter par une lucarne en haut du foin, à une place d'où nous verrons toute la scène. Croyez-moi, venez, une veillée à son prix. Ce n'est pas la première fois que je me serais mis dans le foin pour écouter un récit de soldat ou quelque conte de paysan. Mais cachons-nous bien, si ces pauvres gens voient un étranger, ils font des façons et ne sont plus eux-mêmes. Eh, mon cher hôte, dit Genesta, n'ai-je pas souvent fait semblant de dormir pour entendre mes cavaliers au bivouac? Tenez, je n'ai jamais ri au spectacle de Paris d'aussi bon cœur qu'au récit de la déroute de Moscou, raconté en farce par un vieux maréchal des logis à des conscrits qui avaient peur de la guerre. Il disait que l'armée française faisait dans ses draps, qu'on buvait tout à la glace, que les morts s'arrêtaient en chemin, qu'on avait vu la Russie blanche, qu'on étrillait les chevaux à coups de dents, que ceux qui aimaient à patiner s'étaient bien régalés, que les amateurs de gelée de viande en avaient eu leur soûl, que les femmes étaient généralement froides, et que la seule chose qui avait été sensiblement désagréable était de n'avoir pas eu d'eau chaude pour se raser. Enfin, il débitait des gaudrioles si comiques qu'un vieux fourrier qui avait eu le nez gelé et qu'on appelait nez restant en riait lui-même. Chut, dit Benassi. Nous voici arrivés. Je passe le premier. Suivez-moi. Tous deux montèrent à l'échelle et se blottirent dans le foin, sans avoir été entendus par les gens de la veillée, au-dessus desquels ils se trouvèrent assis de manière à les bien voir. Groupés par masses autour de trois ou quatre chandelles, quelques femmes cousaient, d'autres filaient, plusieurs restaient oisives, le cou tendu, la tête et les yeux tournés vers un vieux paysan qui racontait une histoire. La plupart des hommes se tenaient debout ou couchés sur des bottes de foin. Ces groupes, profondément silencieux, étaient à peine éclairés par les reflets vacillants des chandelles entourées de globes de verre pleins d'eau qui concentraient la lumière en rayons, dans la clarté desquels se tenaient les travailleuses. L'étendue de la grange, dont le haut restait sombre et noir, affaiblissait encore ces lueurs qui coloraient inégalement les têtes en produisant de pittoresques effets de clair-obscur. Ici brillait le front brun et les yeux clairs d'une petite paysanne curieuse. Là, des bandes lumineuses découpaient les rudes fronts de quelques vieux hommes et dessinaient fantasquement leurs vêtements usés ou décolorés. Tous ces gens attentifs et divers dans leurs poses exprimaient sur leurs physionomies immobiles l'entier abandon qu'ils faisaient de leur intelligence au compteur. C'était un tableau curieux, où éclatait la prodigieuse influence exercée sur tous les esprits par la poésie. En exigeant de son narrateur un merveilleux toujours simple, ou de l'impossible presque croyable, le paysan ne se montre-t-il pas ami de la plus pure poésie? Quoique cette maison eût une méchante mine, disait le paysan au moment où les deux nouveaux auditeurs se furent placés pour l'entendre, la pauvre femme bossue était si fatiguée d'avoir porté son chanvre au marché qu'elle y entra, forcée aussi par la nuit qui était venue. Elle demanda seulement à y coucher, car, pour toute nourriture, elle tira une croûte de son bissac et la mangea. Pour lors, l'hôtesse, qui était donc la femme des brigands, ne sachant rien de ce qu'ils avaient convenu de faire pendant la nuit, accueillit la bossue et la mit en haut, sans lumière. « Ma bossue se jette sur un mauvais grabat, dit ses prières, pense à son chanvre et va pour dormir. Mais, avant qu'elle ne fût endormie, elle entendit bruit, et voit entrer deux hommes portant une lanterne. Chacun d'eux tenait un couteau. La peur la prend. Parce que, voyez-vous, dans ce temps-là, les seigneurs aimaient tant les pâtés de chair humaine qu'on en faisait pour eux. Mais, comme la vieille avait le cuir parfaitement racorni, elle se rassura, en pensant qu'on la regarderait comme une mauvaise nourriture. Les deux hommes passent devant la bossue, vont à un lit qui était dans cette grande chambre et où l'on avait mis le monsieur à la grosse valise, qui passait donc pour négromancien. Le plus grand lève la lanterne en prenant les pieds du monsieur. Le petit, celui qui avait fait l'ivrogne, lui empoigne la tête et lui coupe le cou, net, d'une seule fois, croc. Puis il laisse là le corps et la tête, tout dans le sang, vole la valise et descende. Voilà notre femme bien embarrassée. Elle pense d'abord à s'en aller sans qu'on s'en doute, ne sachant pas encore que la Providence l'avait amenée là pour rendre gloire à Dieu et faire punir le crime. Elle avait peur, et quand on a peur, on ne s'inquiète de rien du tout. Mais l'hôtesse, qui avait demandé des nouvelles de la bossue aux deux brigands, les effraie, et ils remontent doucement dans le petit escalier de bois. La pauvre bossue se pelotonne de peur et les entend qui se disputent à voix basse. « Je te dis de la tuer. Faut pas la tuer. Tue-la, non ?» Ils entrent. Ma femme, qui n'était pas bête, ferme l'œil et fait comme si elle dormait. Elle se met à dormir comme un enfant, la main sur son cœur, et prend une respiration de chérubin. Celui qui avait la lanterne l'ouvre, boute la lumière dans l'œil de la vieille endormie, et ma femme de ne point sourciller tant elle avait peur pour son cou. « Tu vois bien qu'elle dort comme un sabot, » dit le grand. C'est si malin les vieilles, répond le petit. Je vais la tuer, nous serons plus tranquilles. D'ailleurs, nous la salerons et la donnerons à manger à nos cochons. En entendant ce propos, ma vieille ne bouge pas. Oh bien, elle dort, dit le petit crâne, en voyant que la bossue n'avait pas bougé. Voilà comment la vieille se sauva. Et l'on peut bien dire qu'elle était courageuse. Certes, il y a bien ici des jeunes filles qui n'auraient pas eu la respiration d'un chérubin en entendant parler des cochons. Les deux brigands se mettent à enlever l'homme mort, le roulent dans ses bras et le jettent dans la petite cour, où la vieille entend les cochons accourir en grognant pour le manger. Pour lors, le lendemain, reprit le narrateur après avoir fait une pause, la femme s'en va, donnant 2 sous pour son coucher. Elle prend son bissac, fait comme si de rien n'était, demande les nouvelles du pays, sort en paix et veut courir. Point. La peur lui coupe les jambes, bien à son heure. Voici pourquoi. Elle avait à peine fait un demi-quart de lieue qu'elle voit venir un des brigands qui la suivait par finesse pour s'assurer qu'elle n'eût rien vu. Elle te devine ça et s'assied sur une pierre. Qu'avez-vous, ma bonne femme? Lui dit le petit, car c'était le petit, le plus malicieux des deux, qui la guettait. Ah, mon bon homme, qu'elle répond, mon bissac est si lourd et je suis si fatiguée que j'aurais bien besoin du bras d'un honnête homme. Voyez-vous cette finaude? Pour gagner mon pauvre logis. Pour lors, le brigand lui offre de l'accompagner. Elle accepte. L'homme lui prend le bras pour savoir si elle a peur. Ah ben, cette femme ne tremble point et marche tranquillement. Et donc, les voilà tous deux causant agriculture et de la manière de faire venir le chanvre, tout bellement jusqu'au faubourg de la ville, où demeurait la bossue et où le brigand la quitta, de peur de rencontrer quelqu'un de la justice. La femme arriva chez elle à l'heure de midi et attendit son homme en réfléchissant aux événements de son voyage et de la nuit. Le chanverrier rentra vers le soir. Il avait faim. Faut lui faire à manger. Donc, tout en graissant sa poêle pour lui faire frire quelque chose, elle lui raconte comment elle a vendu son chanvre, en bavardant à la manière des femmes. Mais elle ne dit rien des cochons, ni du monsieur tué, mangé, volé. Elle fait donc flamber sa poêle pour la nettoyer. Elle se retire, veut l'essuyer, la trouve pleine de sang. Qu'est-ce que tu as mis là-dedans? Dit-elle à son homme. Rien, qu'il répond. Elle croit avoir une lubie de femme et remet sa poêle au feu. Pouf! Une tête tombe par la cheminée. Vois-tu, c'est précisément la tête du mort, dit la vieille. Comme il me regarde! Que me veut-il donc?
Que tu le venges,
lui dit une voix. Que tu es bête, dit le chanverrier. Te voilà bien avec tes berlus qui n'ont pas le sens commun. Il prend la tête, qui lui mord le doigt, et la jette dans sa cour. Fais mon omelette, qui dit, et ne t'inquiète pas de ça. C'est un chat. Un chat? Qu'elle dit. Il était rond comme une boule. Elle remet sa poêle au feu. Pouf! Tombe une jambe. Même histoire. L'homme, pas plus étonné de voir le pied que d'avoir vu la tête, empoigne la jambe et la jette à sa porte. Finalement, l'autre jambe, les deux bras, le corps, tout le voyageur assassiné tombe, un à un. Point d'omelette. Le vieux marchand de chanvre avait bien faim. « Par mon salut éternel, dit-il, si mon omelette se fait, nous verrons à satisfaire cet homme-là. » « Tu conviens donc maintenant que c'est un homme ? » dit la bossue. « Pourquoi m'as-tu dit tout à l'heure que c'était pas une tête, grand asticoteur ?» La femme casse les œufs, fricasse l'omelette et la serre sans plus grogner, parce qu'en voyant ce grabuge, elle commençait à être inquiète. Son homme s'assied et se met à manger. La bossue, qui avait peur, dit qu'elle n'a pas faim. « Toc, toc !» fait un étranger en frappant à la porte. « Qui est là ?»«
L'homme mort d'hier !»«
Entrez !» répond le chanverrier. Donc le voyageur entre, se met sur l'escabelle et dit «
Souvenez-vous de Dieu, qui donne la paix pour l'éternité aux personnes qui confessent son nom. Femme, tu m'as vu faire mourir et tu gardes le silence. J'ai été mangé par les cochons. Les cochons n'entrent pas dans le paradis. Donc moi, qui suis chrétien, J'irai dans l'enfer, faute, par une femme, de parler. Ça ne s'est jamais vu. Faut me délivrer. Et autres propos. La femme, qui avait toujours de plus en plus peur, nettoie sa poêle, met ses habits du dimanche, va dire à la justice le crime qui fut découvert, et les voleurs, joliment roués sur la place du marché. Cette bonne œuvre faite, la femme et son homme ont toujours eu le plus beau chanvre que vous jamais vu. Puis, ce qui leur fut plus agréable, ils eurent ce qu'ils désiraient depuis longtemps, à savoir un enfant mâle qui devint, par suite des temps, baron du roi. Voilà l'histoire véritable de la bossue courageuse. Je n'aime point ces histoires-là, elles me font rêver, dit la fausseuse. J'aime mieux les aventures de Napoléon. C'est vrai, dit le garde champêtre. Voyons, monsieur Gogla, racontez-nous l'empereur. La veillée est trop avancée, dit le piéton, et je n'aime point à raccourcir les victoires. C'est égal, dites tout de même. Nous les connaissons pour les avoir vus dire bien des fois, mais ça fait toujours plaisir à entendre. Racontez-nous l'empereur, crièrent plusieurs personnes ensemble. Vous le voulez, répondit Gogla. Eh bien, vous verrez que ça ne signifie rien quand c'est dit au pas de charge. J'aime mieux vous raconter toute une bataille. Voulez-vous Champaubert, où il n'y avait plus de cartouches et où l'on s'est astiqué tout de même à la baïonnette? Non, l'empereur, l'empereur! Le fantassin se leva de dessus sa botte de foin, promena sur l'assemblée ce regard noir, tout chargé de misère, d'événements et de souffrances, qui distingue les vieux soldats. Il prit sa veste par les deux basques de devant, les releva comme s'il s'agissait de recharger le sac où jadis étaient ses hardes, ses souliers, toute sa fortune. Puis il s'appuya le corps sur la jambe gauche, avança la droite et céda de bonne grâce aux vœux de l'assemblée. Après avoir repoussé ses cheveux gris d'un seul côté de son front pour le découvrir, il porta la tête vers le ciel afin de se mettre à la hauteur de la gigantesque histoire qu'il allait dire. Voyez-vous, mes amis, Napoléon est né en Corse, qui est une île française, chauffée par le soleil d'Italie, où tout bout comme dans une fournaise, et où l'on se tue les uns les autres, de père en fils, à propos de rien, une idée qu'ils ont. Pour vous commencer l'extraordinaire de la chose, sa mère, qui était la plus belle femme de son temps et une finaude, eut la réflexion de le vouer à Dieu, pour le faire échapper à tous les dangers de son enfance et de sa vie, parce qu'elle avait rêvé que tout le monde était en feu le jour de son accouchement. C'était une prophétie. Donc elle demande que Dieu le protège, à condition que Napoléon rétablira sa sainte religion, qui était alors par terre. Voilà qui est convenu, et ça s'est vu. Maintenant, suivez-moi bien, et dites-moi si ce que vous allez entendre est naturel. Il est sûr et certain qu'un homme qui avait eu l'imagination de faire un pacte secret pouvait seul être susceptible de passer à travers les lignes des autres, à travers les balles, les décharges de mitraille qui nous emportaient comme des mouches, et qui avait du respect pour sa tête. J'ai eu la preuve de cela, moi particulièrement, à Eylau. Je le vois encore, monte sur une hauteur, prend sa lorgnette, regarde sa bataille et dit « Ça va bien ». Un de mes intrigants à Panache, qui l'embêtait considérablement et le suivait partout, même pendant qu'il mangeait, qu'on nous a dit, veut faire le malin et prend la place de l'empereur quand il s'en va. Oh, raflé! Plus de panache! Vous entendez bien que Napoléon s'était engagé à garder son secret pour lui seul. Voilà pourquoi tous ceux qui l'accompagnaient, même ses amis particuliers, tombaient comme des noix. Duroc, Bessières, Lannes, tous hommes forts comme des barres d'acier et qu'il fondait à son usage. Enfin, à preuve qu'il était l'enfant de Dieu, fait pour être le père du soldat, c'est qu'on ne l'a jamais vu ni lieutenant ni capitaine. Ah bien oui, en chef, tout de suite. Il n'avait pas l'air d'avoir plus de 23 ans, qu'il était vieux général depuis la prise de Toulon, où il a commencé par faire voir aux autres qu'il n'entendait rien à manœuvrer les canons. Pour lors, Nous tombe tout Maigrelet, général en chef à l'armée d'Italie, qui manquait de pain, de munitions, de souliers, d'habits, une pauvre armée nue comme un ver. Mes amis, qui dit, nous voilà ensemble. Or, mettez-vous dans la boule que d'ici à 15 jours, vous serez vainqueurs, habillés à neuf, que vous aurez tous des capotes, de bonnes guêtres, de fameux souliers. Mais, mes enfants, faut marcher pour les aller prendre à Milan, où il y en a. Et l'on a marché. Le Français, écrasé, plat comme une punaise, se redresse. Nous étions 30 000 va-nu-pieds contre 80 000 fendants d'Allemands, tous beaux hommes bien garnis que je vois encore. Alors Napoléon, qui n'était encore que Bonaparte, nous souffle je ne sais quoi dans le ventre, et l'on marche la nuit, et l'on marche le jour. L'on te les tape à Montenotte, on court les rossés à Rivoli, Lodi, Arcole, Millésimo, et on ne te les lâche pas. Le soldat prend goût à être vainqueur. Alors Napoléon vous enveloppe ses généraux allemands, qui ne savaient où se fourrer pour être à leur aise, les pelote très bien, leur chipe quelquefois des 10 000 hommes d'un seul coup, en vous les entourant de 1 500 Français qu'il faisait foisonner à sa manière. Enfin, leur prend leurs canons, vivres, argent, munitions, tout ce qu'ils avaient de bon à prendre, vous les jette à l'eau, les bat sur les montagnes, les mord dans l'air, les dévore sur terre, les fouaille partout. Voilà des troupes qui se remplument, parce que voyez-vous, l'empereur, qui était aussi un homme d'esprit, se fait bien venir de l'habitant, auquel il dit qu'il est arrivé pour le délivrer. Pour lors, le Pékin nous loge et nous chérit, les femmes aussi, qui étaient des femmes très judicieuses. Fin finale, en Ventose 96, qui était dans ce temps-là le mois de mars d'aujourd'hui, nous étions acculés dans un coin du pays des marmottes, mais après la campagne, nous voilà maîtres de l'Italie, comme Napoléon l'avait prédit. Et au mois de mars suivant, en une seule année et 2 campagnes, ils nous mettent en vue de Vienne. Tout était brossé. Nous avions mangé 3 armées successivement différentes et dégommé 4 généraux autrichiens, dont un vieux qui avait les cheveux blancs et qui a été cuit comme un rat dans les paillassons à Mantoue. Les rois demandaient grâce à genoux. La paix était conquise. Un homme aurait-il pu faire cela? Non. Dieu l'aidait, c'est sûr. Il se subdivisionnait comme les 5 pains de l'Évangile, commandait la bataille le jour, la préparait la nuit, que les sentinelles le voyaient toujours allant et venant, et ne dormaient ni ne mangeaient. Pour lors, reconnaissant ses prodiges, le soldat te l'adopte pour son père. Et en avant. Les autres, à Paris, voyant cela, se disent « Voilà un pèlerin qui paraît prendre ses mots d'ordre dans le ciel. Il est singulièrement capable de mettre la main sur la France. » Faut le lâcher sur l'Asie ou sur l'Amérique. Il s'en contentera peut-être. Ça a été écrit pour lui comme pour Jésus-Christ. Le fait est qu'on lui donne ordre de faire faction en Égypte. Voilà sa ressemblance avec le Fils de Dieu. Ce n'est pas tout. Il rassemble ses meilleurs lapins, ceux qu'il avait particulièrement endiablés, et leur dit comme ça. Mes amis, pour le quart d'heure, on nous donne l'Égypte à chiquer, mais nous l'avalerons en un temps et 2 mouvements, comme nous avons fait de l'Italie. Les simples soldats seront des princes qui auront des terres à eux. En avant! En avant, les enfants, disent les sergents. Et l'on arrive à Toulon, route d'Égypte. Pour lors, les Anglais avaient tous leurs vaisseaux en mer. Mais quand nous nous embarquons, Napoléon nous dit, ils ne nous verront pas, et il est bon que vous sachiez, dès à présent, que votre général possède une étoile dans le ciel qui nous guide et nous protège. Qui fut dit, fut fait. En passant sur la mer, nous prenons Malte, comme une orange pour le désaltérer de sa soif de victoire, car c'était un homme qui ne pouvait pas être sans rien faire. Nous voilà en Égypte. Bon, là, autre consigne. Les Égyptiens, voyez-vous, sont des hommes qui, depuis que le monde est monde, ont coutume d'avoir des géants pour souverains, des armées nombreuses comme des fourmis, parce que c'est un pays de génies et de crocodiles, où l'on a bâti des pyramides grosses comme nos montagnes, sous lesquelles ils ont eu l'imagination de mettre leurs rois pour les conserver frais, chose qui leur plaît généralement. Pour lors, en débarquant, le petit caporal nous dit « Mes enfants, les pays que vous allez conquérir tiennent à un tas de dieux qu'il faut respecter, parce que le français doit être l'ami de tout le monde, et battre les gens sans les vexer. Mettez-vous dans la coloquinte de ne toucher à rien, d'abord parce que nous aurons tout après, et marchez. Voilà qui va bien. Mais tous ces gens-là, auxquels Napoléon était prédit sous le nom de Kébir Bonaberdis, un mot de leur patois qui veut dire « le sultan fait feu », en ont une peur comme du diable. Alors le Grand Turc, l'Asie, l'Afrique ont recours à la magie et nous envoient un démon nommé Maudit, soupçonné d'être descendu du ciel sur un cheval blanc qui était, comme son maître, incombustible au boulet, et qui tous deux vivaient de l'air du temps. Il y en a qui l'ont vu, mais moi je n'ai pas de raison pour vous en faire certain. C'étaient les puissances de l'Arabie et les Mamelouks qui voulaient faire croire à leurs troupiers que le maudit était capable de les empêcher de mourir à la bataille, sous prétexte qu'il était un ange envoyé pour combattre Napoléon et lui reprendre le sceau de Salomon, un de leurs fourniments à eux, qu'ils prétendaient avoir été volé par notre général. Vous entendez bien qu'on leur a fait faire la grimace tout de même.
Ah ça, dites-moi d'où ils avaient su le pacte de Napoléon. Était-ce naturel?